Bonjour et merci d'être là avec nos plus sincères excuses pour ces quelques minutes de retard. Mais nos prédécesseurs, visiblement, vu l'enthousiasme de la salle, avaient passionné l'ensemble des participants. Et donc, on a eu quelques petits moments de retard. Voilà. On va les rattraper parce qu'on ira donc jusqu'à midi, étant donné que le café suivant sur les pirates, pour ceux que ça intéresse, je vous le signale, je l'animerai aussi et donc je pourrai me permettre de rester sur place, ce qui va vous faciliter. Vous ne serez donc pas frustrés, nous allons avoir nos 50 minutes réglementaires. C'est bien le moins pour parler du coup de cœur du festival Lionel Davous, que j'accueille d'abord avec beaucoup de plaisir, parce que Lionel, c'est quelqu'un que je connais et que le festival connaît de très longue date. Je l'ai rencontré en 2000 dans un autre festival, celui-ci n'existait pas encore. C'était à Saint-Malo, aux Étonnants Voyageurs. Et Michel Lebris, le directeur du festival, m'avait sollicité pour l'aider modestement à la programmation science-fiction, puisque c'est le thème qu'avait choisi le Festival des Voyages de Saint-Malo pour l'an 2000, ce qui était assez logique. Et j'ai donc rencontré par un pur hasard sur une table ronde de Lionel Davous, qui s'est rajouté au dernier moment, non pas de sa propre initiative, un garçon trop bien élevé pour ça, mais à la demande d'un des animateurs du festival. Et voilà, j'ai trouvé que ce qu'il disait était bon sens, intéressant. Et du coup, avec mon sens de l'opportunité, certains diront de l'opportunisme, je me suis précipité sur ce malheureux jeune homme en lui proposant de travailler, évidemment, pour très peu cher, pour la revue que je dirigeais. Il en a été ravi, c'est comme ça qu'on les piège quand ils sont tout jeunes. Et résultat, je me suis retrouvé avec un critique tout à fait pertinent, que j'ai appris à apprécier. Puis, La vie est volant, une revue de fantaisie, j'y avais quelques intérêts. J'ai donc sollicité, suscité la candidature de Lionel Davous, qui a été rédacteur en chef de revue. Une revue aujourd'hui disparue, qui s'appelait Astronal, qui a eu seulement 5 numéros. Mais si vous pouvez les trouver à l'occasion, il y avait des dossiers, entre autres, sur Robin Hobb et d'autres grands auteurs. Vous verrez, c'était une très belle revue. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas poursuivi son chemin. Et ensuite, Lionel, parce qu'il était ingénieur à l'UET, dire un mot, vous allez voir tout à l'heure que ça revient, parce que parler en quelque sorte de la mer, c'est un des vrais sujets, ça aurait pu être sa profession, et c'est devenu un de ses sujets d'inspiration, entre autres dans sa série de thrillers. Et pour finir sur ce bref portrait de Lionel Davous, il est donc devenu traducteur, parce que vivre de sa plume quand on est écrivain, c'est un pari, et c'est pas joué d'avance. Donc prudemment, avec ce sens de l'organisation qui le caractérise, il a donc commencé à traduire. C'est aussi une bonne façon, je crois, il ne me démentira pas, d'apprendre son métier d'écrivain, que de traduire les autres, y compris de voir comment on résout les problèmes et de voir aussi comment les autres écrivent. Il a travaillé entre autres pour l'Atalante, qui est une excellente maison et qui est assez rigoureuse avec ses collaborateurs. Deuxième bon signe, qu'en effet, nous avions là plus maintenant un jeune homme, mais à l'époque un jeune homme de talent. Ce jeune homme de talent est devenu, il va rougir, un homme brillant, mais de toute façon sinon ce ne serait pas coup de cœur. Tous les coups de cœur que nous avons choisis, très différents les uns des autres au cours de ces années, ce sont des écrivains qui ne sont pas encore des stars de la littérature, des best-sellers, des écrivains connus du très grand public, mais qui déjà ont été repérés parfois depuis plusieurs années par les spécialistes, par les amateurs éclairés, et dont à un moment donné on se dit c'est le moment de donner un coup d'éclairage à notre échelle sur cet auteur, parce qu'on pense qu'il est utile et souhaitable que beaucoup de lecteurs découvrent de nouvelles voies. Les Imaginales, c'est Bernard Werber-Demain, c'est les grands auteurs du roman historique, comme Didier Deninx cet après-midi, comme d'autres encore qui seront là ces jours-ci, Mireille Calmel. Ce sont évidemment les grands auteurs de fantasy, comme Mercedes Laquet. Ce sont les auteurs de la nouvelle génération beatlit, de littérature mortante, Jay Wells, Mary Janice Davidson, c'est la fantasy traditionnelle, mais pas seulement, avec plein d'idées originales de David Anthony Durham, c'est Kay Meyer, le prix imaginal de fantasy de cette année pour la littérature jeunesse, c'est tout ça, mais c'est aussi la jeune littérature française, c'est-à-dire ces jeunes auteurs qui sortent des premiers romans. D'ailleurs, dans le supplément, on avait parlé de 4 auteurs qui ont sorti un premier roman. Donc on aide modestement, mais quand même, ce festival peut commencer à se le permettre. On pousse, on éclaire, on encourage des jeunes écrivains, on les invite au festival, et à un moment donné, on fait un peu plus. C'est-à-dire qu'on dit, c'est le coup de cœur du festival. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un tel intérêt pour son travail qu'on passe 5 jours ou 4 jours, en tout cas avec l'auteur, à raison d'au moins un débat, parfois 2 par jour, et puis on lui donne l'opportunité. Et on a poussé un petit peu plus dans le cas de Lionel. On lui a proposé même de prendre ma succession sur l'anthologie du festival. J'ai eu le plaisir d'en faire 3. c'est avec Sylvie Miller, Lionel Davous, qui a assuré l'anthologie, mais ça, il vous en parlera cet après-midi lui-même avec Sylvie Miller. Voilà, introduction un peu longue, mais je tenais vraiment à insister. Un coup de cœur, c'est pas, on en a pris un au hasard comme ça dans le chapeau. C'est une rencontre qui se construit. Ça ne vient pas d'un coup. C'est un écrivain qu'on a suivi, qu'on a mis en valeur, qu'on a invité, et dont on pense qu'à un moment donné, c'est ce moment-là, son talent qui était déjà naissant est affirmé aujourd'hui, en particulier avec sa série de thrillers, cette trilogie. Les deux premiers sont parus, on va en parler plus longuement. Peut-être pour commencer, rentrer directement dans le texte, Nicolas Barré, notre lecteur, va nous proposer un extrait, peut-être une nouvelle, ou peut-être avant d'en arriver aux deux premiers volumes de la trilogie, ou peut-être la naissance de la carrière de Lionel, peut-être une nouvelle sur le Lionel engagé.
Catherine est motivée. Catherine n'est plus jeune au sens strict du terme. Mais Catherine en veut, Catherine y croit. Catherine a relevé ses cheveux blonds filasses en chignon. Catherine a mis son tailleur strict gris-souris des grands jours, ses petits escarpins noirs luisants. Catherine s'est maquillée discrètement, fond de teint pour cacher les rides de la trentaine passée. Catherine a tout de l'executive woman, mais Catherine est au chômage depuis 2 ans. La faute à la start-up en cosmétologie qui s'est cassée la figure, alors qu'on lui avait promis mirage, merveille et augmentation fantomatique. Mais ce n'est pas grave, Catherine est une battante. Catherine se regarde une énième fois dans le miroir de son poudrier. Des yeux trop globuleux, les dents trop en avant, Catherine a trop de tout. Un rire qui ressemble trop au braiement d'un âne, un chien trop grand dans un appartement trop petit pour vous tromper une vie trop célibataire. Catherine se concentre de toutes ses forces pour regarder en l'air, pour ne pas contempler en bas l'abîme de la quarantaine qui va bientôt s'ouvrir sous ses pieds, pour ne pas contempler derrière elle les sculptures à peine ébauchées qui parsèment en épave le chemin parcouru. Catherine ne réfléchit pas aux erreurs qu'elle a pu commettre, car elle n'en a pas commises. Elle est juste allée cas en cas, et c'est là toute la tragédie. Mademoiselle, l'homme ne finit pas sa phrase, ne regarde pas le bloc-notes qu'il a à la main. Il la regarde juste, seule dans la salle de réunion, grande baie vitrée ouverte, sur le réseau arachnéen des lignes à haute tension. Morne sous le plafond anthracite des nuages, et il lui fait signe d'entrer d'un hochement fatigué du menton. Catherine se lève avec entrain, sourit, sans montrer les dents, baisse les yeux, entre dans le bureau. La fenêtre donne sur la cour de la centrale. Les aéro-réfrigérants soufflent mollement une vapeur invisible, pliée de la voûte nébuleuse. Le béton sale des bâtiments pleure des salissures noirâtres et la brume opaque avale les collines pelées par-delà le mur d'enceinte. « Asseyez-vous, » dit le chef d'équipe d'une voix traînante avant de se laisser tomber sur son fauteuil dans un bruit mou. « Mademoiselle, » il regarde ses notes, baron-ton. « Oui, je voulais vous remercier de me recevoir. Je suppose que le poste est très couru, mais je voudrais vous assurer que je suis très enthousiaste. » Le chef d'équipe agite une main grassouillette et s'éponge le front avec un mouchoir à carreaux. Il fait pourtant froid, un peu humide, mais il a l'air épuisé de l'homme qui a déménagé l'armoire tout seul. L'odeur aussi. « Pas la peine, on va faire ça vite, » réplique-t-il. « Je ne vous le cache pas, vous êtes la seule à être venue. La plupart ont annulé leur rendez-vous sans donner suite. Certains n'ont même pas pris la peine d'appeler. Donc, à moins de ne vraiment pas faire l'affaire, le poste est à vous. » On va discuter un peu quand même, il faut bien, hein. On va faire les choses dans les règles, mais bon, ce n'est qu'un entretien de routine, vous comprenez. L'enthousiasme de Catherine est un peu douché par la nouvelle. Certes, elle est heureuse, et surtout très rassurée, de décrocher ce travail à coup sûr, mais il y a quelque chose de vexant dans la victoire par défaut, sans rivalité, contre laquelle triompher. Mais c'est là toute la vie de Catherine, des victoires et des défaites, par défaut. Surtout des défaites, à vrai dire. Bon, vous avez une licence en sciences économiques, une petite expérience de commercial. Vous devriez savoir presser des boutons. Vous êtes daltonienne ? Pardon ? Vous êtes daltonienne ? Non, mais... Parfait ! La centrale, c'est comme la technologie. Ça parle un langage universel. Vert, ça va. Orange, attention. Rouge, faut tout arrêter. En résumé, vous regardez vos voyants. Tant que c'est vert, vous faites rien. Si ça passe orange, vous appelez l'équipe pour savoir ce qui cloche, en les menaçant d'organiser une réunion, ou vous leur demanderez éventuellement de tout débrancher. Et, si c'est rouge, vous appuyez sur le gros bouton stop. C'est facile, il est rouge aussi. On ne peut pas se tromper. Vous y arriverez ?
Alors, Lionel Davous, un peu cruel, cette façon de voir les choses.
Oui, clairement. Moi, j'aime bien l'humour un peu mordant, un peu cruel. Donc, c'est vrai que j'ai, enfin, surtout dans les nouvelles, mais j'ai une petite tendance, je pense, à avoir un peu envie de me lâcher des fois, et ça passe parfois par un peu de cruauté. Mais je pense que c'est jamais, enfin, j'allais dire, c'est jamais une cruauté entièrement dénuée de tendresse non plus. C'est-à-dire que finalement, quelque part, moi, j'ai une tendance un peu à étrier. Moi, cette pauvre fille me fait beaucoup de peine quelque part. Et la façon de la décrire d'une façon qui peut paraître un peu méchante et agressive, c'est plus pour moi, si je la trouvais en face de moi, ce serait plutôt une façon d'essayer de l'étrier et de la réveiller. Alors c'est pas forcément la façon la plus pédagogique qui soit, j'en suis conscient, mais moi heureusement elle n'est pas devant moi. Donc,
Finalement, quand vous avez commencé votre travail d'écrivain, c'est-à-dire amusant, parce que la première nouvelle professionnelle, c'est-à-dire payée, hein, il faut appeler les choses par leur nom, vous avez publié, c'était dans une revue qui s'appelait Galaxy, qu'à l'époque je dirigeais, et ce qui m'a frappé, c'est non pas que j'apprenne, ça suffisait d'avoir un peu de goût, mais surtout qu'elle soit nominée au prix Rony-Aîné, c'est-à-dire que d'emblée, la première nouvelle professionnelle de Lionel a été dans la liste des 5 meilleurs textes, les 5 meilleures nouvelles de science-fiction repérées par quand même les lecteurs et les professionnels avertis du milieu. C'est quand même pas mal pour débuter une carrière. Mais très vite, vous vous êtes non pas éloigné, parce que vous aimez toujours bien la science-fiction, mais vous vous êtes plutôt tourné vers la fantasy. Et en particulier pour ceux qui voudront découvrir les premiers textes de Lionel Davos, puisqu'y compris ça renvoie à l'univers d'Évangérine qu'on verra tout à l'heure. Vous avez publié des nouvelles dans Roi et Capitaine, Magiciennes et Sorciers, Victimes et Bourreaux, les 3 premières anthologies du festival. Vous n'êtes pas dans la 4e, non pas qu'il y ait une baisse de talent, mais parce que vous en êtes l'anthologiste, le co-anthologiste, et que, en général, quand on est bien élevé dans l'édition, on ne s'auto-publie pas. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas un qui l'a fait dans la salle, que j'ai gavé. Bon, j'ai dit en général, on peut très bien s'auto-publier, bien élevé, il y a des exceptions. Bien, comme prudente, on anime le festival. Plus sérieusement, votre premier court roman, on dirait novella aux États-Unis probablement. Peut-être là aussi, on va en lire un extrait. On est dans un univers de fantasy. La volonté du dragon.
L'homme qui ouvrait la marche, âgé d'une 50aine d'années, le cheveu gris coupé court et les joues grêlées, s'appliquait à rendre à chaque habitant son regard sans animosité, avec une expression bienveillante mais sans complaisance. Après tout, songeait-il. Ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient. En revanche, à ses côtés, sa comparse, plus jeune, plissait ses lèvres colorées de grenat, une moue sévère fermant ses traits pourtant harmonieux, encore durcis par ses cheveux blonds foncés, tirés en arrière. Menant le groupe, il fondirent les foules comme une pierre au milieu d'une rivière, et toujours il gravissait les venelles et les marches abruptes, s'élevant à travers la ville à la façon d'une bulle de mutisme, aussi infatigable que leur escorte irréelle, malgré leurs longues capes, leurs cuirasses, et la sueur qui leur coulait dans les yeux. Ils quittèrent les ébénistes et les souffleurs de verre pour aborder les rues plus larges des quartiers aisés, foulant les éclaboussures sciants jetées par les vitraux des résidences. Puis, ils longèrent les bâtisses trapues, couronnées de dômes bleus métalliques, les temples du lac. Et puis, les zones d'ombre se raréfièrent, libérant de larges flaques de soleil brûlant, et entre les bâtiments, les trouées dévoilèrent de plus en plus fréquemment la mer, nappe, brumeuse, au loin. Enfin, au sommet d'une dernière pente ardue, ils prirent pied sur le plateau couronnant la ville et gagnèrent l'escalier couleur sable, incrusté de verreries froides, qui montait paresseusement vers une vaste bâtisse, hérissée de flèches terminées d'azur, aux innombrables murets et dépendances tissant un réseau de cours intérieures. Le groupe s'arrêta alors. Les poings sur les hanches, à peine essoufflés, l'homme entre deux âges adressa un long regard au palais royal. Puis, il fit quelques pas sur la gauche, atteignant le bord de la falaise, et mit la main en visière. En contrebas, les rues escarpées de la capitale se déployaient jusqu'au delta fertile, mes traîtres, qui ondoyaient lentement. Mais l'homme regardait au-delà, scrutait l'horizon. Deux rangs de points sombres et immobiles piquetaient les eaux limoneuses à l'embouchure du fleuve. La jeune femme l'appelait. Il laissa encore passer quelques secondes, puis la rejoignit, escortée par deux gardes en vêtements bouffants, un émissaire bedonnant, au visage plus tanné par le soleil que par l'âge, vêtu de riches soieries violacées, ornées de saphirs, parvenait en bas des marches. Le souffle un peu court, celui-ci joignit les poings, avant d'écarter les mains, paume vers le haut, les yeux vers le ciel. Puis, dans la langue commune des peuples du Grand Sud, il déclara « Puissiez-vous marcher avec le vent ?» En réponse, l'étranger en uniforme attrapa le revers de sa cape blanche, se frappa l'épaule et tendit le bras sur le côté, en lâchant le vêtement dans un claquement d'étoffe. Sa pose mimant celle de l'aigle, à l'aile déployée sur son plastron. « Pax Asred Kaelan Vanar », prononça-t-il dans sa langue natale, avant de traduire en Faïm, « La paix d'Asred pour la protection du monde. Je suis le généralissime Deolus Vastet, commandant de la 7e légion de l'Empire d'Asred, et voici mon aide, le lieutenant Stanir Corvoza. Je suis le gouverneur Charul Meran, répondit l'émissaire. Je parle au nom de Khazul, notre roi. Que pouvons-nous pour le tout-puissant Empire Asrien ? Les deux officiers échangèrent un bref regard, puis le généralissime haussa les sourcils. Allons, Excellence, nous sommes venus discuter des modalités de votre reddition.
Voilà, ça démarre très très fort, on a bien compris, on est dans un empire, visiblement. Un empire agressif, militariste. Qu'est-ce qu'il y a en face ?
Alors, l'Empire d'Azred, donc, c'est donc dans l'univers des Vanégir, donc qui est un monde assez vaste que je développe depuis un certain temps, et dans des récits qui sont tous indépendants les uns des autres, qui est un truc auquel je tiens beaucoup, puisqu'il y a déjà beaucoup de cycles en fantasy, et moi j'avais envie de tenter une façon différente de raconter des histoires et de raconter une trame et un monde, c'est-à-dire plutôt que de procéder par des grands livres-mondes, par des grandes séries, qui est un truc que je fais plus avec Léviathan. J'avais envie d'avoir justement des récits qui soient des ensembles narratifs, que ce soit un roman ou une nouvelle, qui soient tous indépendants les uns des autres, mais que si on suit et si on lit, d'ailleurs sans ordre, on peut voir peuvent émerger en sous-main une perspective différente sur les éléments. C'est parce que notamment un thème qui m'intéresse beaucoup dans l'univers des Vanégir, c'est l'histoire, sa progression, le rouleau compresseur de l'histoire à la façon shakespearienne. Et la façon dont les peuples et les événements, en fonction de l'endroit dont on les voit, que ce soit géographiquement, culturellement ou même temporellement, le recul qu'on peut avoir sur eux, comment on peut les considérer d'une façon différente. Alors l'Empire d'Azret est une civilisation qui est fondamentale dans cet univers-là, puisque c'est la civilisation qui a découvert comment apprivoiser l'énergie magique sauvage du monde et en faire des machines. Et des machines qui permettent évidemment des tas de prodiges technologiques divers. Et comme ce sont des gens qui se considèrent éclairés, comme c'est un grand empire qui est technologique, ils considèrent comme beaucoup d'empires que finalement ce serait vachement mieux si c'était eux qui dominaient le monde, toute ressemblance avec des civilisations ayant existé étant évidemment purement fortuite. Donc c'est un empire qui est militariste puisqu'il passe par la conquête des armes, mais ce sont, on va dire, des gens qui sont relativement dévoyés puisqu'ils ne conquièrent pas par les armes sans avoir envoyé des diplomates d'abord et dit « Nous vous apportons la lumière, nous vous apportons la civilisation, vous seriez bien stupide de ne pas vous associer à nous puisque vous n'avez qu'à y gagner. » Bon, évidemment, il y a juste un truc, c'est qu'il faudrait jurer allégeance à l'empire et puis évidemment vous laissez gouverner par nous, mais je veux dire, il n'y a aucune raison de s'attacher à des trucs aussi stupides et aussi anodins que la souveraineté territoriale, puis d'ailleurs votre culture, l'Empire a d'ailleurs des appels des conservatoires culturels, donc effectivement des conservateurs, comme des conservateurs de musées, mais qui sont des gens qui sont chargés de la culture des pays sous vide. Donc effectivement, c'est un empire qui est militariste, mais qui sont persuadés d'agir du côté du bien. Et ce sont des... Moi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, c'est pas conscient de ma part. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir les gens qui font des bonnes choses pour les mauvaises raisons, et les gens qui font les mauvaises choses pour les bonnes raisons. Et parce que je pense beaucoup que l'éthique est une question de choix personnel, que ce soit au niveau de l'individu ou même au niveau des civilisations. Et je... Voilà, même le pire des tyrans aime caresser les chats. Dans l'Empire d'Azret, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de faire des choses qu'on peut considérer répréhensibles, mais ils sont persuadés qu'ils font ça pour de bonnes raisons. Et après, un des jeux et des plaisirs de la littérature, je trouve, c'est de laisser aussi au lecteur le choix de décider quelle est la moralité qu'il choisit, et de quel côté il a envie de se placer, et de se faire lui-même sa propre opinion à partir des forces en présence. L'histoire n'est qu'une histoire. Pour moi, elle n'a pas de discours à donner, elle a juste éventuellement des questions à poser.
Pourquoi vous avez plus exactement fait le choix au départ de la nouvelle et non pas du roman ? Est-ce que c'est pour des problèmes de disponibilité ? Vous ne sentiez pas encore prêt à vous lancer dans un texte long ? Est-ce que la nouvelle est une écriture exigeante qui nécessitent certaines techniques, qui sont un apprentissage de la littérature. Bref, pourquoi avez-vous commencé par des textes courts, Lionel Daoust ?
Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que je suis incapable de garder une idée vaste dans ma tête. Non, plus sérieusement, moi je considère véritablement l'écriture comme... bon, évidemment, l'écriture est une technique artistique, donc il y a forcément une part d'inconscient, il y a forcément une part d'intuitif et d'ineffable. Il y a des choses dans tout processus de création qui ne s'expliquent pas vraiment, qui viennent de l'inconscient. D'ailleurs, on est surpris parfois, a posteriori, de tomber sur des trucs. L'inconscient est parmi nous, mais... mais on a fréquemment, enfin moi c'était la perception que j'en avais quand j'ai commencé véritablement à vouloir faire ça sérieusement mon métier de l'écriture dans les années 2000. C'est moins le cas maintenant, mais on avait quand même beaucoup et on garde quand même beaucoup l'idée de se dire que l'écriture finalement, on met une écharpe blanche, on va au bord d'une falaise, à ce moment-là il y a la foudre qui vous frappe, vous retournez chez vous, vous tapez sur une machine à écrire et c'est forcément génial. Non, enfin moi j'ai pas cette chance en tout cas. Donc, pour moi, l'écriture, c'est évidemment, c'est bien quand il y a la foudre qui vous frappe, seulement ça arrive pas tout le temps, et surtout, c'est aussi un métier. Et c'est marrant parce que ça choque personne quand on se dit j'ai envie d'apprendre le piano, ça choque personne de se dire peut-être que j'apprenne du solfège, peut-être que je fasse des gammes, peut-être que je muscle les doigts sinon je vais pas réussir à jouer correctement. Quand je veux faire du dessin, ça choque personne de se dire je vais apprendre les règles de la perspective, je vais apprendre les règles de l'anatomie, etc. pour essayer de dessiner correctement. Mais en écriture, il n'y a pas vraiment, en tout cas en France, cette approche. C'est forcément génial. Ben non. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas. Une histoire, raconter une histoire, réfléchir sur ses effets, réfléchir sur des questions comme le point de vue, réfléchir sur les règles de narration. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles créatives, mais il y a, quand on raconte une histoire, le lecteur va avoir certaines attentes. Quand on raconte une histoire, on fait des promesses au lecteur. On va lui dire, je ne vais pas gâcher ton temps. Si tu as acheté mon bouquin et que tu vas le lire, a priori, le but, c'est que tu passes un bon moment et que tu n'aies pas envie de trouver mon adresse pour me balancer la tête à la fin. Donc c'est, du moins, c'est préférable. Donc, la nouvelle me paraissait une école effectivement exigeante, parce que dans une nouvelle, rien ne doit dépasser, tout doit concourir à l'effet qu'on cherche à créer. Et c'était aussi une bonne école à la fois d'expérimentation, puisque dans une nouvelle, on peut tenter des tas de techniques littéraires. On peut jouer avec les codes, ce que le lecteur va accepter pendant 15-30 pages sur un roman, ça peut devenir extrêmement fastidieux. Donc ça permettait de tester des tas de choses et donc d'apprendre, et également de tester des techniques narratives, et puis petit à petit de dominer de plus en plus pour moi la technique de narration. Et j'ai de façon très suivie dans l'écriture, j'ai écrit pas mal de nouvelles. Puis je suis passé à la novella avec L'importance de ton regard qui clôt le recueil, puis un peu plus long avec Le court roman avec la volonté. Et donc maintenant j'en suis à des trilogies dont les bouquins font 1 million de chacun. Donc voilà, mais il y avait pour moi effectivement une démarche de construction parce que j'ai une attitude relative à la fois de assez humble finalement, enfin j'espère, vis-à-vis de l'écriture, qui est que à la fois il y a une part d'inconscient, mais il y a aussi une part de technique, et moi je considère que cette part de technique, en tout cas c'est une bonne approche. Je ne préjuge en rien de l'approche des autres, hein, mais moi ce dont j'avais besoin, j'ai besoin de m'apprendre et de m'expliquer à moi-même ce que je suis en train de faire, pour avoir ensuite l'impression de le maîtriser et d'essayer de le faire du mieux possible. C'est en gros, j'ai eu besoin d'apprendre à nager dans le petit bain avant de faire Paris-New York à la nage.
Vous avez, je crois, une traduction d'une nouvelle dans le monde anglo-saxon aussi.
Oui.
Vous expliquez ça rapidement.
Oui, oui. Donc il y a une clause qui a été assez remarquée et ce qui m'a fait très plaisir a aussi reçu le prix Imaginal de la Nouvelle en 2009. Donc c'était ce texte était une leçon assez amusante parce que c'est un des textes qui m'a donné une leçon d'écriture importante. Alors je pense il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça, mais je ne prétendrai pas juger que c'est une valeur universelle, absolument pas. En tout cas, moi c'était une étape importante. C'est qu'en gros, j'ai écrit ce texte en me disant peu importe si ça plaise ou pas, mais moi, qu'est-ce que je m'amuse. Et je pense que ça a été une leçon d'écriture importante, qui est que finalement, en ce qui me concerne, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont le même ressenti, peu importe que ça plaise ou pas, peu importe que ce soit publié ou pas, à partir du moment où on se fait plaisir et où on fait de son mieux. Et je me suis vraiment lâché avec les clauses, donc qui était une nouvelle sur le mythe arthurien, et qui était un peu irrévérencieuse, mais en même temps, je l'espère, faite avec beaucoup de tendresse, puisqu'en fait, il y a eu tellement de réécritures et de retraitements du mythe arthurien que les personnages de la geste, en gros, dans ce texte-là, est incarnable, puisqu'en fait, ils ont vécu tellement d'écritures et de réécritures qu'ils n'en savent plus où ils sont, et qu'ils deviennent cinglés, et que Avalon devient une espèce de prison un peu kafkaïenne pour eux-mêmes, où ils sont condamnés à revivre 100 fois les mêmes trucs et qu'ils cherchent à sortir de ça. Donc cette nouvelle-là, bah, comme donc elle a été très appréciée en France, était parue dans l'anthologie d'abord de Brancéland en Avalon chez Terre de Brume, dirigée par Lucie Chenu. Et en fait, la façon dont ça s'est passé, tout simplement, il y avait régulièrement, Delia Sherman, en collaboration avec un anthologiste, donc pour cette anthologie, c'était Christopher Barzac, qui travaille avec l'Interstitial Arts Foundation, qui est une fondation dont j'aime beaucoup l'attitude, qui dit qu'ils cherchent à promouvoir et à publier, mais aussi ils font aussi des arts plastiques, etc., un art pour lequel il n'y a pas encore les codes et les cartes pour le décoder. Donc moi, c'est une attitude qui me plaît beaucoup. Mon blog s'appelait longtemps Expérience en temps réel, donc c'était la reflète directe de ça. Tout simplement, je savais qu'ils prenaient des soumissions en anglais, et bon, je me suis dit, j'ai une chance sur mille comme ça passe, mais j'ai tout simplement tenté le truc, et le texte a eu l'heure de leur plaire. Donc, a été effectivement traduit aux États-Unis dans l'anthologie Interfiction 2, et qui était un énorme honneur pour moi. C'était, je crois, en 2009, donc j'avais pas encore j'avais encore que des nouvelles publiées en anthologie, en recueil. Donc c'était une aventure assez fantastique.
Je vois que c'était pas un texte prévu, mais Nicolas Barry veut nous en lire un petit extrait, c'est ça ?
Oui, un extrait court qui peut rendre compte du côté humoristique et du jeu avec l'archétype. Lancelot. Sous un ciel plombé, là où la terre brune glissait sous les flots calmes de l'océan, ou d'un lac si vaste que le brouillard en dissimulait la berge opposée, les habitants de l'île s'étaient rassemblés autour du chevalier. Vêtus d'une armure resplendissante, juchés fièrement sur un immense palefroid caparaçonné, cheveux au vent, mâchoires carrées, Lancelot promenait une ultime fois son regard pur sur l'assemblée. Il sentait le fer et le gingembre, la bougie et le sexe. Tout Camelot retenait son souffle, respectueusement silencieux à l'approche de l'événement qui, par sa régularité et son caractère héroïque, avait pris des allures de cérémonie. Le chevalier termina la pomme dorée cueillie dans les vergers du château, la mangea jusqu'au trognon, puis accepta la lance que lui tendait son écuyer. Il brandit l'arme en criant d'une voix claire « Pour le roi !» Les spectateurs anonymes levèrent vaguement le poing en retour et poussèrent quelques acclamations dubitatives. Avant de baisser la visière de son aume, Lancelot se retourna vers le château, vers son amante, dépositaire d'une force tragique. Guenièvre n'était pas descendu sur la rive, mais il savait que leurs regards se croiseraient, quelle que soit la fenêtre qu'ils choisiraient. Ils étaient liés. Camelot ne prenait jamais deux fois la même apparence, mais sur l'île, seules les significations importaient. Le favori du roi se retourna vers la berge, pointa sa lance et prena son cheval. Le coursier galopa joyeusement dans l'eau sans le moindre doute. L'assistance recula de quelques pas pour éviter les grandes gerbes d'éclaboussures. Très rapidement, l'animal sombra sous le poids de l'armure et du cavalier, disparut, et se noya, probablement. Lancelot tenta bien de nager, mais à son tour, entraîné par le fer, il coula à pic dans les eaux grises. Camelot suivit encore quelque temps les progrès du chevalier, au sillage de bulles qui marquait sa marche solide, imperturbable, vers le large. Puis, quand celles-ci se raréfièrent pour s'évanouir tout à fait, les spectateurs tournèrent les talons et remontèrent d'un pas lourd vers le château. Il commençait à pleuvoir.
Quand même osé sur le mythe arthurien, Lionel Daoust. C'est l'humour dont vous parliez au début. T'aimais bien ?
J'aime bien, oui, je pense qu'au fond de moi, je suis un garçon très irrévérencieux. Donc oui, j'aime. Mais surtout, je crois que j'ai un problème avec ce qui est considéré comme sacré, en fait. Que ce soit figure historique, mythe, etc. À un moment, il y a eu des gens véritables derrière, et je pense que ces gens, ça pouvait parfois leur arriver de rire, et ça pouvait aussi parfois peut-être, je suis navré, mais je pense qu'il est dû arriver à Chrétien de Troyes de se bourrer la gueule dans des tavernes. Donc, alors, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas traiter les objets littéraires avec la référence qu'il aurait dû, mais qu'à partir du moment où les choses deviennent sacrées, rigides, Elle ne respire plus, elle n'évolue plus. Et finalement, le mythe arthurien, en plus, dès le début, ça a été une matière qui était vivante, puisqu'elle a été écrite et réécrite et reconstruite pendant au minimum 4 siècles, hein, à partir des premières versions. Et ce qui est amusant, en plus, en parlant justement sur le mythe arthurien, c'est que ce corpus, on ne cesse d'y ajouter. Et je crois que c'est Alexandre Astier, bien connu, puisqu'il a aussi fait des choses absolument géniales sur la question avec Kaamelott, et qui disait dans une interview, aujourd'hui, le Sacré Graal des Monty Python est considéré comme une source arthurienne. Ce qui est quand même, je veux dire, le summum de l'irrévérence. Et ça n'empêche pas, et je pense vraiment que la littérature, l'écriture sont des choses qui sont extrêmement vivantes, qu'on a un peu trop tendance à les enfermer. Moi j'ai beaucoup souffert de l'enseignement du français au collège et au lycée, et on a beaucoup tendance à les enfermer, à les mettre sous vide, et à les considérer comme des trucs lyophilisés, à ne surtout pas toucher. Alors il faut évidemment avoir des exégèses et des études de ces choses-là, parce que c'est intéressant, mais perdre de vue qu'à la base, la littérature, la culture, c'est des objets de plaisir, et c'est des affaires de goût et des subjectivités avant tout, moi je trouve ça un peu dommage. Et justement, ça m'ennuie qu'il y a des barrières comme ça, et alors ça n'empêche pas de les traiter avec le respect. Moi, quand j'ai commencé à écrire l'hypnose, je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai répondu oui à une nouvelle sur le mythe arthurien? Tout a déjà été fait, qu'est-ce que moi, pauvre nouvelliste, avec, je ne sais plus, à l'époque, 6 ou 7 ans de publication derrière moi, j'ai pouvoir ajouter au truc. Bah, j'ai humblement et timidement essayé de faire mon truc, et puis voilà, la seule façon que j'ai trouvé, c'était justement de parler toutes les réécritures à la fois. Donc voilà, j'ai un côté, j'aime pas les barrières invisibles qui séparent les choses, et j'aime pas l'étanchéité entre les catégories, entre les gens, et la sacralisation de certaines choses. La révérence, oui, mais pas le sacré.
On va maintenant plonger dans le grand bain, puisqu'on a abordé les débuts de la carrière de Lionel Davoust. L'édition, la traduction, l'écriture de nouvelles, certains types de nouvelles, l'entrée en fantaisie. Et puis là, on va passer en fantaisie urbaine, avec un grand projet qui est quand même une trilogie. Contente pas ce garçon de faire un premier roman, mais on va faire tout de suite une trilogie. Et le pire, ou mieux plutôt, c'est qu'il arrive à la vendre à un éditeur. Alors, en deux mots, parce que c'est pas le cœur de notre débat, mais en vraiment 30 secondes, comment, à partir d'un prix imaginal de la nouvelle, d'un court roman, chez un éditeur critique en l'occurrence, et puis quelques nouvelles remarquées, vous êtes arrivé à proposer d'emblée, comme ça, gaillardement, à l'éditeur, je vous propose une trilogie, de la fantasy urbaine, suivez-moi.
J'ai rencontré donc Stéphanie Chevrier, qui dirige les éditions Don Quichotte aujourd'hui, et à l'époque elle était chez Flammarion, et elle a lu certains de mes textes, et en fait on s'est rencontrés, et elle trouvait que j'avais quelque chose d'intéressant dans les nouvelles, mais que bon, j'étais peut-être encore un peu vert, et que surtout il fallait que je montre que j'avais les reins solides, et donc elle n'a cessé, et je l'en remercie régulièrement pour ça, elle n'a cessé de pousser vers le roman en me disant « faites-moi un roman, faites-moi un roman ». Et qui a été aussi une part de mon cheminement en montant de plus en plus haut, en augmentant la durée et en m'autorisant aussi, parce que je pense que dans l'écriture il y a une part importante de s'autoriser à faire les choses, donc en m'autorisant à être de plus en plus ambitieux et à pas avoir peur de me casser la figure le cas échéant. Et j'avais proposé à Don Quichotte un premier projet, et finalement on a convenu d'ailleurs d'un commun accord que c'était pas le bon projet pour cette maison là. Ce qui d'ailleurs était intéressant, parce qu'en fait on s'est rendu compte justement sur la base d'un projet qui du coup ne s'est pas fait entre nous, on s'est justement rendu compte que comme on pouvait se dire non, on pouvait se faire confiance. Et donc en réfléchissant et en davantage, et à l'époque donc, quand elle a fondé Don Quichotte, je me suis rendu compte que ce qu'il cherchait, et ce qu'en plus moi, ce que Léviathan est un projet qui me trotte dans la tête depuis une quinzaine d'années au bas bout, c'était tout simplement le truc qu'il fallait leur soumettre, donc je leur en aurais parlé. Et là, effectivement, ils ont dit oui, effectivement, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire, c'est-à-dire quelque chose un peu confluent entre le thriller dans ses codes, mais aussi qui part dans l'imaginaire, qui part dans les fêlures du réel, et qui part dans l'initiatique aussi.
Eh bien, on va commencer, avant de poser les premières questions, rentrer directement dans le texte. Nicolas Barré, si vous voulez bien nous en lire un extrait.
Donc, Léviathan, la chute. Masha Turgenev s'éveilla brutalement, avec au ventre l'étrange sensation que quelque chose ne collait pas. Il y avait du mouvement dehors. Un groupe s'efforçait de passer inaperçu. Les nerfs vibrants d'excitation, elle se tint immobile au creux du lit et tendit l'oreille dans la pénombre du studio miteux. Elle se félicita d'avoir utilisé une identité secondaire. Si la principale s'était retrouvée compromise, elle aurait été bien incapable de fournir des explications à ses protecteurs. La vie de San Diego était sous la coupe de leurs adversaires, la main droite. Tant que Masha soignait la couverture qu'on lui avait fournie, elle ne risquait rien, car elle n'était personne. Mais à mener son enquête clandestine dans le barrio Logan, elle courait le danger d'attirer l'attention de leurs ennemis, qui traquaient justement les gens comme elle. Des gens qui avaient décidé de tourner le dos à la pseudo-autorité divine. Elle fit le vide dans son esprit et s'efforça d'ouvrir ses sens au maximum. Trois personnes, bottes lourdes, cliquetis légers d'un équipement de pointe. La porte vola en éclats. Trois soldats des SWAT, les forces spéciales de la police, firent éruption dans la pièce. Mais quand ils braquèrent les torches de leur MP5 sur les draps d'effet, ils ne virent personne. Le temps de réaction d'un être humain en bonne condition physique avoisine la seconde. Avec un entraînement intense, tel qu'en reçoivent les membres du SWAT, ce laps de temps avoisine celui du réflexe. Mais même un réflexe nécessite un délai incompressible, celui qu'il faut au stimulus pour parcourir les fibres nerveuses des organes sensoriels jusqu'au cerveau, puis de celui-ci jusqu'aux muscles. Masha fut plus rapide encore. L'homme de gauche avait à peine entrevu une ombre dans son faisceau qu'il fut percuté par ce qui lui parut l'équivalent d'un train lancé à pleine vitesse. Projeté en arrière, il heurta violemment la paroi derrière lui. Ses doigts engourdis par le choc ne purent retenir l'arme qu'on lui arrachait et il n'eut pas le temps de retrouver son souffle qu'il sentait déjà une pression étouffante sur sa gorge. Quand les deux autres éclairèrent leurs camarades de leur lampe, c'était fini. Masha se tenait derrière lui et le maîtrisait avec une prise au cou, une lueur folle, de peur et de plaisir mêlée dansait au fond de ses yeux. L'homme chercha à se débattre, voulut la faire rouler par-dessus son épaule. Il la dépassait d'une tête et demie et pesait 40 kilos de plus. Mais ses mains larges comme des battoirs ne parvinrent pas à faire bouger d'un pouce les bras fins qui l'enserraient. On aurait dit qu'il essayait vainement de tordre une barre d'acier à main nue ou de déraciner un rocher. Masha pressa la gueule du pistolet mitrailleur contre son menton et il se tint tranquille. « Posez vos armes !» cracha-t-elle avec fureur. Mettre un terme à la vie de cet homme. Elle sentait le métal dans sa main, tiède et rassurant, la détente à portée de l'index. Un geste, un seul, et elle déchaînerait l'enfer. Entre terreur et exaltation, une bouffée sauvage de puissance monta dans ses veines. Dire qu'elle avait presque oublié, après tant d'années d'inertie, cette sensation animale de domination, de pouvoir, cet instant d'équilibre fugace où tout était possible et qu'elle pouvait faire basculer selon son seul désir, cette possibilité d'une action libérée de toute contrainte où la décision n'appartiendrait qu'à elle, le frisson de l'ardence. Pourtant, elle ne le tuerait pas. Elle n'aimait pas tuer sans une bonne raison. Or, si cet homme servait la main droite, il n'en avait certainement pas conscience. Il n'était qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Et puis, il lui était plus utile vivant que mort. Pour l'instant. Les SWAT échangèrent un bref regard. Elle y lut une pointe de stupeur et d'angoisse. Cela ne s'était pas du tout passé comme il l'avait prévu. « Je veux tout voir par terre, dépêchez !» Les deux hommes écartèrent lentement les mains en signe de reddition et déposèrent un à un. Leurs pistolets, mitrailleurs, revolvers et couteaux de combat sur le sol. « Reculez dans le couloir, foutez le camp » cria-t-elle d'une voix qui approchait du rugissement. « Et que vos copains restent en arrière !»« Ça ne sert à rien, » essaya l'homme de droite d'un ton conciliant. « Vous ne faites qu'aggraver votre situation. L'immeuble est bouclé, vous n'irez nulle part. Soyez raisonnable, rendez-vous. »
Lionel Davoust, quand on entend comme ça le texte qu'on a écrit, qu'est-ce que ça fait comme effet?
Déjà, je veux remercier Nicolas qui, pour moi, un excellent lecteur et j'aime beaucoup la façon qu'il a de mettre le texte en valeur, donc merci. Et bah, c'est évidemment très agréable puisque la scène qu'on a dans sa tête prend vie une deuxième fois et surtout une scène d'action comme ça où on a quelque chose de visuel et en plus interne avec le feeling de Masha, ça donne aussi un éclairage différent de l'entendre de l'extérieur, de la même façon que quand on lit une publication, ça donne une réalité à la chose, et quelque part c'est comme si on lisait le texte pour la première fois.
Alors, on a entendu parler de la main droite, on suppose qu'il y a la main droite et la main gauche, il y a un affrontement, est-ce que la main droite c'est le mal et la main gauche le bien, ou c'est l'inverse, ou c'est autre chose?
Alors, c'est tout à fait autre chose. Alors, les distinctions entre voix de la main droite et voix de la main gauche, ce sont des. Le terme de voix de la main gauche, alors j'ai plus les dates, mais remonte à l'Inde antique, ou notamment à travers le thème de Vamakara, qui est. Donc, c'est quelque chose de très ancien. La voix de la main gauche, en fait, à la base, ça désignait tout ce qui était l'antinomisme, donc aller contre la norme, dans les traditions de l'Inde ancienne. C'est quelque chose qui disparaît dans les limbes de l'histoire, et notamment dans l'histoire occidentale, et qui ressurgit au 19e siècle, vers la deuxième moitié du 19e siècle. Notamment importé par Elena Blavatsky, et qui apparaît parce qu'elle avait importé énormément de choses de l'Inde, entre diverses choses qu'elle faisait, pas toutes sympathiques, mais bon. Et bref, peu importe, ce terme ressurgit dans l'ésotérisme occidental, donc vers la fin du XIXe siècle, et dans les traditions. Et en fait, tout simplement, voix de la main gauche et voix de la main droite, c'est une façon de voir les traditions initiatiques du monde entier. Et la voix de la main droite, tout simplement, c'est ce qui symbolise tout ce qui est la soumission à un ordre. C'est-à-dire qui dit que, finalement, qui dit que l'ordre, le but suprême de l'être humain, c'est d'essayer de comprendre l'ordre du monde qui l'entoure, et d'essayer de s'y faire une place. Et d'essayer donc de ne pas chercher à aller contre le courant, mais à aller avec et de s'y insérer du mieux possible. Fréquemment, évidemment, cet ordre vient de quelque chose de supérieur, donc il vient de l'ordre, il est de nature divine. Et voilà, la main gauche, c'est l'inverse. C'est ce qui consiste à dire que l'être humain a en lui le potentiel de tracer sa propre route et d'être son propre maître, et que ce sont donc effectivement les tenants de l'antinomisme, donc d'aller contre la norme. Mais c'est donc des points de vue qui sont totalement philosophiques et qui ne sont pas du tout éthiques. Ça dépend comment on considère les choses. Il est évident que les tribunaux de l'Inquisition, dans leur grande époque, considéraient que vouloir évidemment vivre en dehors de l'Église et aller contre son courant, c'était le mal, et qu'il valait mieux. L'hérésie est évidemment lourdement condamnée, pas autant, ils n'ont pas autant brûlé de gens qu'on l'imagine, parce qu'on a souvent cette image d'Épinal, ils l'ont fait, mais pas autant qu'on le pense quand même. Donc pour moi, et c'était important aussi à placer dans cette série-là, c'était un contexte qui moi m'intéresse énormément, parce que ça rejoint beaucoup de mes intérêts personnels, mais justement, au contraire, je tenais à mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de bien ni de mal là-dedans, il y a juste une vision du monde, encore une fois, et que d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui sont sympathiques, il y a des gens qui le sont moins. C'est un non-sens. De vouloir brocarder l'Église catholique dans son ensemble à l'époque de l'Inquisition parce qu'ils ont brûlé Galilée. Je veux dire, à l'époque, il y avait aussi des prêtres qui étaient des pauvres. Enfin, pas brûlés. Bon, c'est une histoire compliquée, Galilée, mais il n'y a pas mis du sien. L'Inquisition, malgré tout, quand même, était un des tribunaux les plus respectueux des droits de la défense à l'époque. Ils ont quand même essayé au maximum. Non, c'est dans l'eau, voilà, c'est ce que je pensais. Galilée y a échappé, pardon. C'est Bruno. Et Bruno, l'Inquisition a fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de le faire remettre dans le droit chemin. Le problème, c'est qu'il était de la maison, donc ils ne pouvaient pas vraiment tolérer ça correctement. Ils ont essayé mille fois de lui dire non, mais arrête, sérieux, arrête. Mais bon. Ce sont des points de vue plus sur le monde, et en fonction de l'endroit où on se place, en fonction de la morale que l'on a, et c'est une idée qui sous-tend effectivement la Léviathan, la morale est un choix, et il y a des gens très sympathiques et très détestables dans un camp comme dans l'autre, et notamment les personnages, en particulier Masha, puisqu'il y a, les deux puis trois personnages principaux de la série, notamment Masha et en partie le Andrew, qui est le personnage qui apparaît dans le volume 2, qui est l'agent du FBI, se trouvent confrontés à ces questions-là, des questions de moralité, de choix moraux que par rapport à eux-mêmes.
Alors pour qu'on s'y retrouve, peut-être qu'on va aborder les personnages un par un. Oui. Masha, quelques mots sur Masha, sans trop en révéler, pour situer, et quel est le rôle qu'elle joue. Voilà, sans trop révéler, on est au début du roman.
Je vais la charger pour les deux. Donc Masha Toganiev est une guerrière de la main gauche. Donc c'est une mage sur le retour, donc c'est quelqu'un qui, selon l'univers de Léviathan, a eu accès à des techniques anciennes et initiatiques qui lui ont permis de développer quelque peu, comme on le voit dans la série, d'aller légèrement au-delà du potentiel communément admis de l'être humain. Mais c'est quelqu'un qui s'est rangé. Et c'est quelqu'un qui fait partie d'un complot dont l'autre personnage principal, Michael Patterson, fait l'objet. Mais c'est quelqu'un donc d'assez fort caractère, et on ne lui a pas tout dit sur le complot dont elle fait partie, et elle décide de mener l'enquête pour elle-même parce qu'elle refuse, en tant que guerrière de la main gauche, en tant que quelqu'un qui donc décide et en tout cas suppose qu'elle est son propre maître, elle refuse d'aller de façon aveugle dans quelque chose qu'elle ne comprend pas et ne maîtrise pas.
Un autre extrait, Nicolas Barret, si vous voulez bien, histoire de sentir un petit peu la façon dont le roman s'agence.
Démétrina n'avait pas vu son agresseur bouger. L'effroi et le doute avaient douché son ardence, annihilant sa force de conviction, le ramenant au centre d'état, de profane savant. Il fallait qu'il reprenne l'avantage, mais sa terreur face à une force qu'il ne parvenait pas à comprendre avait fait voler en éclats le bloc monolithique de sa volonté et paralysé ses réactions. L'ombre lui tordit le poignet, puis le bras, avec une lenteur perverse, forçant sur les limites de l'articulation, obligeant le mage à se pencher, à mettre un genou à terre, à adopter une posture de capitulation, tandis que les ligaments menaçaient de céder, les os de se briser. De sa main libre, il trouva le bras de l'ombre, dans les replis de sa robe vaporeuse et froide. Voulut lutter, mais il eut la sensation de tenter d'arracher un arbre centenaire, à main nue. Des gouttes de sueur perlèrent à son front. Il haleta, réfrénant des gémissements. Arrêtez, j'ai compris le message. Dites-moi ce que vous voulez. Je suis riche, je détiens des informations. Je peux faire beaucoup pour vous. Tout le monde a un prix. Nommez-le, je le paierai. L'ombre, imperturbable, continuait à exercer sa torsion avec une joie atroce. Démétrina dut plier encore davantage, tout en cherchant vainement à frapper son adversaire du poing. Je m'allierai à vous, je me retournerai avec vous contre le comité. Je les connais bien, je fais partie de l'organisation. Je vous aiderai à la renverser. C'est bien ce que vous voulez, non ? Tout le monde a un prix, Constanzo, n'est-ce pas ? Surtout toi. Je vais te dire ce que je veux, la vengeance. Michael Peterson, nous sommes liés, mariés en esprit comme en corps, mais nous avons été séparés. J'ai traversé la moitié du monde depuis l'Antarctique, voyageant clandestinement dans les zones d'ombre de la société humaine. Tout cela pour m'apercevoir qu'il était dissimulé à ma vue. Quelqu'un, dont la réalité consensuelle, l'avait soigneusement caché, pour qu'aucun médium, aucun mage, aucun joueur ne puisse jamais détecter sa trace. Ici, la flamme de sa conscience est invisible. Démétrina eut un sourire teinté de détresse et se força à rire. Peterson, c'est tout ? Mais c'est très facile. Je peux vous le donner. J'ai son adresse, ses habitudes, les coordonnées de sa famille. Vous aurez toutes les pièces de sa vie en votre possession. Tout. Oh, tu vas me les donner. Mais Peterson n'est pas tout. Je t'ai dit vouloir aussi la vengeance. Le mage grimaçait de douleur. Ses articulations céderaient d'un instant à l'autre. Ses os éclateraient dans ses chairs. « Arrêtez, implora-t-il à genoux. Je suis votre meilleur allié. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vous suis plus utile vivant que mort. Réfléchissez. » »« Je ne réfléchis pas, Constanzo. Je suis la fureur. Je suis les charognards des champs de bataille, les corbeaux de la dispersion. Et Peterson est mon seul but. Il fallait un véritable maître pour le masquer aussi bien au sens. Mais c'est ta spécialité, n'est-ce pas ? Hélas, c'est Dwayne de Eldat qui t'a formé. Il te connaissait bien. » C'était un homme prudent. Il n'aurait jamais permis que tu puisses disparaître toi-même à ses yeux. C'est grâce à son savoir que je t'ai traqué. Alors, tu vas tout me donner, effectivement. Tu vas me donner les pièces de la vie de Peterson, mais aussi la connaissance de la discipline de l'obfuscation, grâce à laquelle tu l'as dérobée à l'échiquier du jeu supérieur. Tu vas me révéler tout ce que tu sais du comité et l'ensemble de tes connaissances. Je m'approprierai ton âme, Constanzo.
Le jeu supérieur, un comité, l'Antarctique, on est dans le thriller, on est dans le mystère, sans trop révéler, on va vers quoi ?
Alors, pour moi, Léviathan, c'est du thriller que j'ai envie de qualifier d'initiatique, puisque c'est aussi un voyage personnel à travers donc, les traditions de l'initiation. Donc, le voyage vers l'Antarctique, les voyages que l'on fait à l'extérieur, on transforme aussi à l'intérieur, donc... L'autre personnage, Michael Peterson, fait ce voyage-là, et en fait, l'histoire est principalement autour de son initiation, de ce qu'il cache en lui-même, et de la peur que les mages de la main gauche, pourtant très puissants, ont de lui. Et donc c'est un voyage extrêmement difficile, puisque ça le force à se confronter à lui-même, et surtout ça le force à se confronter au secret du monde, au secret de ce monde-là, en tout cas, qui... pourrait ou ne pourrait pas être notre réalité, et avec justement toutes les mythologies et les traditions et les anciens archétypes de l'humanité qui se trouvent, qui pénètrent le roman, qui pénètrent la série, je dirais, à travers les légendes et les mythes.
On va pas avoir le temps d'en dire trop, bien sûr, mais c'est le but, c'est de vous frustrer pour que dans les minutes qui suivent, vous vous précipitiez sous la bulle du livre pour poursuivre la discussion avec Lionel, pour acheter ses romans, en particulier, évidemment, son petit roman de fantasy de grande qualité dont on a lu, Evangelion, je sais, je prononce mal. C'est un univers de fantasy avec ce roman, entre là aussi, non pas le bien et le mal, mais deux visions du monde, et toujours un regard particulier. Quand on cherche chez Lionel Davoust ce qui pourrait être un axe autour de textes très différents, je pense que c'est cet élément-là. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que votre romanesque ne pose pas, contrairement à beaucoup de textes de fantasy, une vision relativement simple entre le bien et le mal, mais plutôt en effet entre deux visions du monde. Le bien et le mal, ça existe, mais c'est beaucoup plus dispersé. Et j'ai l'impression aussi, vous me direz encore une fois si j'ai raison, le bien et le mal, il y a aussi le gris entre les deux, il n'y a pas que le noir et le blanc.
Oui, tout à fait. En tant que lecteur, j'aime pas trop, moi, qu'on me balise qui est méchant, qui est gentil. Le machin est très très méchant, le machin est très très gentil. J'aime pas qu'on me donne des leçons non plus, et j'ai toujours un peu de mal avec l'idée de littérature à message. Donc, comme on écrit quand même globalement ce qu'on aimerait trouver, et bien justement, je m'efforce d'éviter de faire ça. Et au contraire, je préfère largement avoir des personnages avec des visions différentes, dans des situations différentes, qui font des choix plus ou moins bien informés, et de finalement laisser et faire confiance surtout au lecteur pour se faire sa propre opinion et sa propre décision. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'en fait, les réactions sur La Volonté du Dragon ou sur Léviathan sont extrêmement diversifiées. Et il y a autant dans les uns comme dans les autres, certains personnages sont bien compris et certains lecteurs ont de la compassion pour certains, comme d'autres lecteurs ne peuvent pas les voir et les détestent. Et pour moi, finalement, c'est le meilleur... C'est le meilleur témoignage que j'espère, en tout cas ce but est atteint. Moi j'aime vraiment, et c'est ce que je fais ce que j'aime qu'on fasse avec moi, c'est simplement donner les clés aux lecteurs, des personnages, des événements, etc. Raconter une bonne histoire, bien sûr, autant que possible, mais de laisser finalement le lecteur, lui, faire son chemin, son avis, et décider de la morale qu'il veut trouver dans les livres.
Bien voilà, ça pourrait être une bien belle conclusion pour Lionel Davoust. Je vous incite à le retrouver. La Volonté du Dragon aux éditions Critiques, une belle aventure de fantasy. Et puis les deux premiers volumes de son thriller, Léviathan, La Chute et puis La Nuit. Vous y trouverez aussi un naufrage, des peurs, un voyage en Antarctique, des mystères, un agent du FBI, des rebondissements. Lionel Davoust en matière de thriller tient la route aussi bien qu'un bon écrivain américain, ce qui n'est pas un mince compliment, parce que c'est quand même les maîtres du thriller. Et puis, sa fantaisie, subtile et néanmoins d'aventure. Le coup de cœur du festival, croyez-moi, il est sacrément mérité. Merci Lionel Davoust.
Merci.
Et merci à Nicolas pour la lecture.